France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Un matin du mois de mai 2002, Chantal Akerman était l'invitée de Pierre Assouline dans Première Édition pour son film « De l'autre côté », un documentaire tourné sur la frontière du Mexique et de l'Arizona. De l'autre côté venait après d'Est, tourné dans les pays de l'Est après la chute du mur, et Sud, tourné dans le sud des États-Unis. Trois documentaires pouvant être considérés comme une trilogie selon leur réalisatrice qui en disait ceci. Ils sont hantés par les camps, mais ça, je ne m'en rends compte qu'après les voir terminés. Dans De l'autre côté, il y a un mur, des halogènes. Ma mère, quand je lui demandais à quoi ça lui faisait penser, m'a dit « Tu sais très bien ». Chantal Akerman, pour son film « De l'autre côté », dans Première Édition de Pierre Assouline, le 17 mai 2002.
Bonjour Chantal Akerman.
Et bonjour Pierre.
C'est difficile de commencer le matin avec une telle musique, mais j'ai pas pu m'en empêcher. C'est Sonia Vidar-Atherton au violoncelle et Daria Ovora au piano. Ce sont des chants juifs pour violoncelle et piano, et ça c'est le Kol Nidre. Ben, je l'ai choisi parce que finalement, votre film que j'ai vu hier soir, qui est un film qui se passe entre l'Arizona et le Mexique aujourd'hui, ben, il m'a parlé de ça aussi.
C'est évident. Mais j'ai l'impression que, vous savez, on a des obsessions dans la vie. Et quoi que je fasse, parce que moi j'essaie d'y échapper, on retombe dedans. Et si vous voulez, donc c'est un film sur les Mexicains qui essayent de... C'est plus large que ça. Qui essayent de passer aux États-Unis. Donc il y a toute une partie mexicaine. Et puis il y a une partie américaine. Et il y a toute une partie où on voit en fait comment ces Mexicains sont vus d'en haut. Par les Américains, par des hélicoptères avec des caméras, et donc ça en tout cas, des caméras infrarouges. Et on les voit comme des mouches ou des animaux ou des fantômes. Il y a un moment donné où il y a une image où vraiment on les voit à travers une mire comme si on allait leur tirer dessus. Et puis c'est des fantômes en noir et blanc qui se tiennent les uns aux autres et il y a une soixantaine de gens qui passent.
Ça c'est une image d'archive ?
Et en fait c'est une image d'archive du service d'immigration américain. Et qui m'a donné tout ce que je voulais. Parce qu'ils sont très très fiers de ça.
Ça, c'est une rare image qui ne soit pas de vous.
Il y a quelques images comme ça. C'est-à-dire que c'est un film où, un peu hybride, où il y a des images d'archives du service d'immigration américain qui m'ont terrifié, mais dont eux sont très fiers. Et qui montrent les gens, en fait, comme si c'était plus des gens.
Alors, ce film
qui s'intitule... En effet, le Kol Nidre, qui fait quand même penser au camp, ben oui... Si vous voulez, c'est comme la ville que je montre, qui est la ville mexicaine, est entourée de barrières, soit de bois, soit de métal. Ce métal, en fait, c'est des anciennes plaques où atterrissaient les hélicoptères au Vietnam. Et puis, du côté américain, il y a des immenses lampes à halogène. Et donc, toute la ville est entourée de ces lampes, comme si c'était un grand camp.
Et... C'est pour ça qu'il y a un lien direct, finalement, entre ce qu'on vient d'entendre, oui, et puis ce film, parce que c'est un film sur l'exil aussi. C'est un film sur la déportation aussi, au sens propre du terme. Oui. Et puis c'est un film qu'on ne peut pas voir sans songer à d'autres de vos films, d'Est et Sud, comme s'il y avait une sorte de trilogie ou de triptyque.
Je pense que c'est vraiment une trilogie. Bon, donc j'ai commencé par d'Est, où c'est un film donc qui se passe en Europe de l'Est, juste après l'ouverture, disons, juste après que le mur soit abattu. Et que c'est un film, en fait, qui tout en se passant en 91 ou en 92, je sais plus exactement, évoque les années noires, les années de guerre, sans aucune image. Hein. Et en même temps, ça évoque aussi un monde fermé. Après, il y a eu Sud, qui, lui, par résonance, évoque l'esclavage des Noirs en Amérique, et qui lui aussi évoque un monde fermé, parce que l'Amérique et la Russie sont deux grandes forteresses maintenant, et encore, ça change un peu, à part que tout le monde veut partir de là, mais c'est comme si c'était deux mondes fermés autistes sur eux-mêmes, on ne dit pas autistiques sur eux-mêmes, peut-être qu'on dit, et donc c'est pour ça que je trouvais que après d'Est, faire un film sur le sud des États-Unis, c'était vraiment mettre les deux pays en écho. Et puis il y a ce film qui s'appelle donc De l'autre côté, qui montre comment ce monde américain est une forteresse, et que dans cette forteresse, que cette forteresse essaye d'être pénétrée par des gens qui ont faim. Comme l'Europe l'est d'ailleurs aussi. Là, on ne voit pas dans le film, mais j'avais été parler au maire de la petite ville de Douglas, qui est donc cette ville frontière. Vous vous rendez pas compte que les États-Unis et l'Europe, notre côté de l'Europe, sont devenus deux forteresses, et que tout le reste du monde entier va mal. Il dit si, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a toujours cette, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis sûr qu'on peut faire des choses.
Le point commun entre ces trois films, et le troisième donc, c'est ce documentaire De l'autre côté, qui est présenté au Festival de Cannes hors compétition. Le point commun, finalement, c'est la peur.
Oui, mais est-ce que c'est la peur des gens, ou est-ce que là c'est la peur du spectateur? Parce que moi, je pense que ça joue sur les deux côtés, parce qu'en fait, bon, moi j'ai fait ce film, je l'ai tourné entre septembre et décembre, par saccades comme ça. Et au moment où je le finissais, Le Pen passait au premier tour. Je me suis dit, c'est pas possible, comme j'étais c'est pas possible, comme on peut tomber si juste par rapport à notre histoire à nous. Et du coup, je pense que ce film fait encore plus peur aux spectateurs, parce que si vous voulez, en Amérique, ce qu'il y a d'extraordinaire et d'extravagant, et c'est pas comme ça ici, c'est que, par exemple, les images d'archives que j'ai reçues du service de l'immigration, à ce moment-là, le service de l'immigration était sous Clinton. Et donc, ça y est, Doris Meissner, qui était chef du service de l'immigration, était une démocrate. Et pourtant, il y a un moment donné, un des border patrol qui le dit, « It's a daily war ». Donc c'est une guerre de tous les jours pour protéger nos frontières extérieures et intérieures.
Une guerre qui n'a pas été déclarée, parce que ces immigrants, donc
eux, ils ne savent pas qu'ils sont
en guerre. Donc on voit dans ce film, et je raconte un petit peu, qui est un très beau film, et notamment par son rythme, par son rapport au temps. On voit dans ce film des plans fixes assez très très forts et très denses sur ce désert, parce que le désert est très présent, c'est le personnage principal, et puis aussi des entretiens avec ces immigrants, ces illégaux, comme ils disent. Et on a vraiment le sentiment que eux, ils n'y vont que pour essayer de survivre. Et le but, c'est de passer au-delà, même si au-delà, de l'autre côté, c'est la mort, ils veulent quand même aller au-delà.
Ils veulent aller au-delà parce que, bon, il y a beaucoup de gens désespérés.
Oui, mais Chantal Ackerman, pourquoi n'avez-vous pas été plus près, soit à Sangatte, par exemple, soit encore du côté de ces Marocains qui quittent le Maroc par bateau et qui se retrouvent échoués, à moitié morts ou parfois morts, sur les plages espagnoles?
Parce que je trouve que plus on monte des choses qui sont loin, plus ça ramène à ici. Parce que quand on monte des choses sur lesquelles on a le nez collé, on les voit plus. Si vous voulez, ce qui se passe près de Calais, on en entend parler tous les jours. enfin tous les jours j'exagère de temps en temps. C'est déjà devenu presque une habitude. Au début on s'est dit oh là là c'est affreux.
Et puis on c'est un fait divers.
C'est devenu un fait divers. Et à force de répéter que ce fait divers soit répété, il n'atteint plus l'émotionnel. Il atteint peut-être le cerveau, oui c'est une information en plus, mais il n'atteint plus l'émotionnel, c'est fini.
Et puis il y a autre chose, c'est que à travers cet exemple américain, donc entre l'Arizona et le Mexique et cette frontière, il y a quelque chose de cru, d'aride, qui fait tout ressortir. Et puis la frontière, elle est physique.
Elle est physique.
On voit le mur.
Elle est physique, c'est comme le mur de Berlin. C'est comme le mur de Berlin. Enfin, elle n'est pas en pierre, mais elle est physique, c'est pour ça qu'on sent le camp. Et c'est pour ça que ça ramène, quand on le voit ça, pour nous d'affreux souvenirs. Là, en Europe, je dirais que les choses sont plus hypocrites. Il y a pas de frontières, il y a plus de frontières. Mais quand on se trouve dans un train, Paris-Bruxelles, par exemple, que je fais souvent, eh bien, tout le monde vous fait des sourires à moi, parce que j'ai la peau blanche. Et puis tout d'un coup, au loin, dans le train, il y a quelqu'un qu'on fait ou sortir du train ou qu'on tient, et il se fait que celui-là n'a pas la peau blanche. Et donc c'est un monde sans frontières, mais avec des frontières qui sont la fameuse loi du faciès, mais qui sont plus hypocrites, plus sournoises. Là-bas, c'est clair.
C'est clair. Ouais. Il y a cette crudité, pas seulement des paysages, mais des mentalités. Parce que les gens que vous avez rencontrés, les Américains, qui ont leur bonne conscience pour eux et qui sont très puritains, ils vous disent bien ce qu'on ne veut pas chez ces gens-là, ces immigrants, c'est leur maladie, de leur saleté. Ils parlent tout le temps de saleté, de maladie, de purification.
Mais c'est à cause du mot saleté que j'ai été faire ce film là-bas. Si vous voulez, j'avais lu un tout petit extrait, je crois que c'était dans Libé ou dans Le Monde, comme quoi les ranchers eux-mêmes, pour s'amuser en plus de tout, parce que ça allait avec des grands magnums dans la nuit, faire la chasse eux-mêmes aux immigrants, aux illégaux comme ils disent, et les détenaient dans leur ranch pour après les donner au border patrol. Et il disait, ils polluent, ils salissent notre mode de vie. Ils nous salissent en quelque sorte. Et il y a un des personnages dans le film, ils disent, ce dont on a le plus peur, c'est qu'ils nous amènent, ça n'est pas encore arrivé, il dit. Mais c'est que, il le dit, mais que ça va nous amener des maladies. Style la variole et tout ça. Et il répète encore une fois, ça n'est pas arrivé, mais ça peut. Et donc, qu'est-ce que c'est? La peur de l'autre qui est sale. L'autre est sale, et nous on est des purs, nous on est propres, et eux vont nous salir, et en fait, ils ont une peur fondamentale que ça va les changer leur mode de vie. Et bon, en effet, l'Amérique est puritaine, elle est née comme ça, avec les puritains, et elle est née aussi avec un homme, un fusil. Et ça c'est lundi, c'est le règne de l'individu a le droit de se défendre lui-même. Et oui. Donc de tuer l'autre. Et donc ils sont prêts à tuer l'autre.
De se défendre, mais en l'occurrence, il n'est pas attaqué.
mais il se sent attaqué.
Il se sent en guerre.
Mais il se sent attaqué. Bon, ça c'est comme ici, c'est fantasmatique. Ici, les endroits où on a voté pour Le Pen, où il n'y a pas un noir, où il n'y a pas un beurre, où il n'y a personne, c'est tout à fait de l'ordre du fantasme. Le fantasme est plus fort presque que le réel. Regardez en Pologne. Ils pensent que les Polonais pensent encore que toute la Pologne est dirigée par les Juifs et qu'il y a encore 3 millions de Juifs en Pologne. Il y en a 3 000. Donc c'est de l'ordre du fantasme. Et c'est ça qui sera le plus difficile à extirper des gens. C'est dans leur fantasme, l'autre est différent, l'autre leur en veut, l'autre est sale. L'autre va attaquer leur propre intégrité, si vous voulez. C'est pour ça que quand j'ai fait ce film, et quand on l'a eu fini, et que, bon, il y a juste une Le Pen qui passait en deuxième tour, je me suis dit, là j'ai pas pu être plus proche, j'ai pu tomber pile. Alors que bon, ici, malgré tout, on a l'impression que, par rapport à d'autres pays, quand on voit le monde entier, on a l'impression que quand même, malgré tout ce qui s'y passe, on peut quand même dire encore douce France.
Hein. Alors que là-bas, quand on voit ce que vous avez filmé, donc dans ces trois lieux, parce qu'il y a trois lieux, il y a Agua Prieta, qui est la ville mexicaine, qui est l'antichambre, purgatoire, j'allais dire, oui. Et puis il y a Douglas, qui est la ville frontière, et puis la plaine des ranches.
Voilà. Et puis j'ai filmé un peu dans les montagnes les gens qui avaient perdu un fils ou un petit-fils au moment de leur traversée.
Et puis il y a le désert, parce que c'est un western, hein, votre film, finalement. Bon, c'est un documentaire, mais c'est un western aussi. Et ce qui est terrible, c'est que ce western, il fait penser à Enfin, il aurait pu avoir pour titre La Horde Sauvage. Parce que pour eux, c'est une horde.
Oui. La horde des immigrants. Ils les appellent comme ça. La horde des immigrants. Oui, non mais...
Alors que ce sont des gens qui veulent juste survivre.
Oui, mais bon, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, comme d'habitude chez les Américains, c'est une hypocrisie folle. Parce qu'il y a des grandes compagnies. Par exemple, dans les nettoyages à sec, etc., à Chicago, à Philadelphie et ailleurs, qui veulent ces immigrants.
Les Chicanos ?
Ah oui, ils les veulent pour les pays à bas prix. C'est déjà, ils savent qu'en fait, s'ils vont à Chicago enfin en tout cas dans l'Est, et ils ont déjà du travail à bas prix, en noir, dans des grandes industries. Et donc ces grandes industries arrivent à faire des prix assez bas et à rester compétitifs grâce aux Chicanos. Mais même il y a des gens qui sont prêts à chasser ces Chicanos, mais qui les emploient pour presque rien. Si vous voulez. Donc c'est ça l'hypocrisie totale de ce monde. Bon, et là où il y a une vraie peur, à Los Angeles, on sait que en 2020, on parlera espagnol plus qu'anglais. Les gens seront plus bronzés que blonds. Enfin, ça on sait.
Ah oui, mais en même temps, il y a un personnage de votre film qui vous dit à un moment. Écoutez, à l'entrée de chez moi, il y a marqué « No trespassing » en anglais. Et il n'y a pas besoin de le traduire en espagnol parce qu'ici, on parle l'anglais.
Oui. Oui, mais c'est ça, ils veulent protéger. Bon, je veux dire, ça c'est comme ici en France. On veut que les jeunes dans les cités parlent français comme nous. Alors qu'ils ont inventé une autre langue. Si vous voulez. La notion de la langue, c'est une notion... Moi, par exemple, c'est vrai que j'adore le français. Pourtant, je suis né en Belgique de parents juifs polonais, mais le français, c'est ma langue. Et quand je l'entends mal parler, ou parler différemment, je ne la reconnais plus. Alors, soit c'est amusant, soit c'est intéressant, soit ça apporte d'autres choses, mais d'une certaine manière, c'est vrai que ça fait changer notre langue. Et la langue, c'est la langue maternelle, c'est la mère. C'est comme si... Si vous voulez, quand on attaque la langue, on attaque la mère. Hein? Alors c'est quelque chose d'insoutenable pour les gens. Et que ils veulent que ce soit l'anglais qui continue. Je peux pas les... Je veux dire, on peut pas que leur en vouloir de ça, parce que c'est une chose très profonde que la langue.
D'autant qu'ils savent très bien, ils le sentent très bien, que l'espagnol va devenir...
L'espagnol va devenir la langue. En plus, toute l'Arizona et la moitié de la Californie a été achetée par je ne sais plus quel Américain au président mexicain de l'époque, dans les années 10 ou quelque chose comme ça, 1900, pour 10 millions de dollars. Et bon, c'est vrai que les Mexicains aussi, tous les présidents étaient corrompus, etc. Mais en fait, ça appartenait au Mexique. Et ça, les Américains le savent. Et ça, ils ont l'impression qu'au fond, par cette immigration, ils récupèrent toute cette partie. Ça, ils veulent pas non plus. Enfin, c'est à la fois très personnel, là, on va perdre notre langue, on va perdre notre identité, on va perdre notre mode de vie, d'un autre côté, et puis on peut perdre notre pays. Mais bon, beaucoup est de l'ordre du fantasme.
De l'autre côté, votre film, finalement, moi je l'ai vu aussi comme un road movie. Parce que qu'est-ce qu'on bouge dans ce film ? Il y a beaucoup de voitures en permanence. Et puis quand on n'y a pas de voiture, on est dans la voiture. Et ça défile.
Oui, pourtant je... Oui.
Il y a un peu de ça quand même.
Il y a un peu de ça et en même temps, on a quand même la sensation que ça tourne, qu'on fait quand même... Tout en étant peut-être ça, on fait quand même du surplace tout le temps. Puisque chaque fois qu'on avance, paf, on se retrouve de nouveau devant ce mur. Si vous voulez.
Oui.
J'aurais jamais pensé à dire que c'était un road movie, mais...
Il y a un peu de ça. Oui. Il y a un peu de ça. Et en même temps, effectivement, on se cogne la tête au mur, c'est le cas de le dire. Et puis ce qui est frappant aussi, c'est le rythme de ce film, c'est le calme, l'apaisement, le silence. Il y a beaucoup d'images de silence. Parce que le désert est proche, peut-être.
Parce que le désert... Mais c'est ça aussi, ça... Moi, en le montant, ça m'a frappé que toute la première partie du film était d'une douceur. Alors qu'il y avait des images, certaines qui étaient violentes. Mais c'est ce ciel, ce désert, cette douceur de l'air donne une douceur à une situation violente. Et c'est ce contraste, c'est très frappant. Encore une fois, vous savez, un film, quand on le fait. Et puis, on n'est pas toujours conscient de ce qui s'en dégage. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre au montage. Quand j'ai eu filmé ni montage, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est doux, cette première partie en tout cas. La violence vient plus dès qu'on est dans la deuxième partie. Et encore, elle s'insinue petit à petit seulement.
Mais quand on est dans la chasse, on est vraiment dans la chasse aux immigrants oui. illégaux, on est vraiment dans la violence.
Et je pense aussi que c'est pas toujours aussi bon. Là, ça c'est encore c'est peut-être tarte à la crème ce que je vais dire, mais la violence en plus ne fait plus d'effet. Elle s'est usée hein, à force d'être utilisée au cinéma ou à la télévision. Alors que je pense que cette douceur à travers laquelle sointe la violence, elle peut de nouveau se faire entendre et se faire voir. Parce que les images de violence et de sexe ont tellement été usées qu'elles ne se voient plus.
Et l'autre oui. contraste, indépendamment de ce contraste que vous venez d'évoquer, entre le côté paisible de la première moitié du film et le côté violent de la seconde partie, c'est dans les paroles même, pas seulement dans les images. Parce que vous avez finalement deux types d'interlocuteurs, soit des Américains assez agressifs, ou en tout cas défensifs. Vraiment oui. sur la défensive, soit des Mexicains en larmes.
Et oui, ils ont une voix douce en plus.
Oui, mais ils sont toujours au bord oui. du chagrin et toujours oui. à l'instant de pleurer.
Vous savez, les premiers qu'on voit dans le film, ils ont perdu dans ce village. 22 personnes sont parties en même temps, 14 sont mortes. Et donc, et en même temps, ils ont une force de... Je veux dire, il y a donc une dame, une grand-mère qui s'appelle Delfina et son mari. Ils ont perdu dans le même voyage leur fils et leur petit-fils. En même temps, moi, je trouve qu'ils se tiennent incroyablement.
Tout ça pour aller dans la cage dorée.
Tout ça pour aller dans la cage dorée. Tout ça aussi parce que le fils, en tout cas, voulait changer son village, voulait ramener de l'argent de là-bas et transformer son pays. C'est... Alors, si on devait faire un film sur le Mexique, ça c'est encore un autre problème, vraiment que sur le Mexique, parce que quand on vient d'un milieu, et c'est pas normal non plus, quand on vient d'un milieu pauvre, il y a 99% de chances, si on reste là, qu'on puisse pas s'en sortir. Ce qui est pas normal. Et c'est vrai que c'est pas le cas aux États-Unis. Et c'est vrai que, bon, il y a en tout cas plus de gens qui peuvent d'un million pauvre aller à, disons, un million un peu moins pauvre. Il y a encore cette possibilité là-bas. Au Mexique, pour des raisons très très complexes, qui d'ailleurs sont en partie aussi liées avec l'Amérique, mais aussi avec la corruption, enfin, aussi avec un vieux système, et on sent encore le vieux système féodal, on sent encore les Espagnols qui dominent les Mexicains, on sent encore la colonie, quoi. À la fois des Espagnols, à la fois des Européens, et à la fois colonisé par l'Amérique. Maintenant, ce qu'ils font les Américains, c'est qu'ils mettent des grosses usines là-bas. Ils font travailler les gens comme des chiens pour dire « Mais non, on fait avancer le pays. » Et puis, des maquiladoras, ça s'appelle. Et puis, enfin, c'est un peu nous ce qu'on fait quand on va en Asie avec nous. Et puis, on leur donne à la place de, je sais pas, 7 dollars par jour, on leur donne 10. C'est merveilleux. Donc, c'est très, très difficile de s'en sortir là-bas quand on vient d'un milieu pauvre. Donc, bon, ils ont pas trop le choix d'aller. Je sais plus ce que je disais, mais je crois qu'on passe à autre chose.
C'était Chantal Ackerman pour son film De l'autre côté, au micro de Pierre Assouline dans Première Édition. Première diffusion le 17 mai 2002 sur France Culture.